Jacques de la Rosière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président d'Eurofi. On va parler avec vous eh bien, notamment de votre table ronde, ce que vous avez évoqué, hein, les prochaines priorités. Alors l'Europe 2020, finalement, ce n'est pas dans très longtemps. On a senti au cours de la conférence, finalement, pas mal de blocages. Et on peut même se poser la question, est-ce que l'Europe, finalement, fonctionne?
Oui, c'est une bonne question que vous me posez. J'ai pris ce matin un exemple que je vais un peu développer avec vous, si vous le permettez. C'est celui du financement des petites et moyennes entreprises. Normalement, ce financement devrait se faire sans problème par l'intermédiaire du système bancaire, parce que ce sont les banques qui sont en vis-à-vis avec les petites et moyennes entreprises. Elles n'accèdent pas directement au marché financier comme peuvent le faire les très grandes maisons. Alors, ce que l'on constate depuis maintenant plus de 2 ans, c'est que le crédit aux entreprises est en train de se réduire. Sur le plan, je parle du plan européen de l'eurozone, il se réduit et il se réduit d'une manière assez dramatique parce que les chiffres globaux sont de l'ordre de moins 2,5% à moins 3% par an. Et c'est le stock de crédit aux entreprises. Alors c'est évidemment une contraction du crédit tout à fait significative qui est en train de nourrir la faiblesse de la demande en Europe et la faiblesse de la croissance économique qui est très très fragile et balbutiante. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les banques se retirent-elles du marché du prêt aux entreprises ? Alors, il y a beaucoup de raisons. Il y a le fait que la demande globale étant plutôt faible, il y a moins de demandes de nouveaux crédits de la part des entreprises. Il y a le fait aussi que beaucoup d'entreprises ont été abîmées par la crise et que la qualité de leur bilan est telle que les banques se posent des questions avant de renouveler des crédits qui peuvent déjà être classés comme des crédits douteux. Tout ça, ce sont des raisons qui sont objectives et qui expliquent en partie le phénomène.
On a beaucoup évoqué la partie réglementaire.
Oui, alors, il ne faut pas se limiter à ce que je viens de dire. Il faut en effet regarder l'impact réglementaire. Alors, l'impact réglementaire, il est très important. Nous avons, à travers la réglementation de Bâle et ce qui va avec, on a demandé au secteur bancaire de doubler son capital, ses fonds propres, depuis 2 ans. Il faut savoir que le doublement du capital d'un système bancaire, c'est une opération majeure. On avait pris à peu près 100 ans dans la période précédente pour doubler le capital des banques européennes. Et là, on l'a fait en 2 ans, 2 ans et demi. Une opération aussi brutale est vouée à créer des problèmes au niveau de l'octroi de crédit. Et quand vous regardez cette banque européenne virtuelle qui est l'agrégation de toutes les banques de la zone euro, et que vous regardez l'évolution du bilan avant la réglementation et après la réglementation, vous voyez que les banques prêtent moins. C'est ce que je viens de dire, prêtent de moins en moins, qu'elles prêtent de plus en plus court, de moins en moins long, et qu'elles s'orientent vers la détention de titres financiers qui satisfont bien aux critères de liquidité que l'on a imposés au système bancaire. Et donc vous avez un système qui est beaucoup moins efficient du point de vue de l'octroi de crédit et qui tente à faire des banques des détentrices d'actifs financiers plus que des détentrices de créances sur l'économie réelle. Alors ça se voit dans les statistiques de la politique monétaire. Normalement, quand vous avez un ensemble économique comme celui de l'Europe, où du côté des budgets publics, on restreint un peu, peut-être pas suffisamment, mais on restreint un peu quand même les déficits et la demande publique, vous devez avoir en contrepartie une politique monétaire plus active. C'est ce qu'on appelle le policy mix. Or, en fait, la politique monétaire, elle est accommodante. Les taux d'intérêt sont proches de zéro, on fournit beaucoup de liquidités aux banques, les dernières interventions de la BCE sont très remarquables de ce point de vue-là. Mais, cette politique libérale en matière d'octroi de liquidités ne trouve pas son chemin dans l'économie réelle.
Donc pour aller jusqu'au PME, par exemple.
Et toute cette liquidité, ben, elle reste encore dans la sphère financière. Les banques peuvent apporter des titres publics à la BCE pour recevoir du cash en contrepartie qu'elles mettent alors dans des comptes de liquidité. Mais si vous voulez,
ça tourne un peu en rond
la sphère financière ou la sphère des titres publics. Et c'est ce qui explique que les spreads, c'est-à-dire les écarts de taux sur les valeurs d'État, sont extraordinairement faibles. Mais il faut se rappeler que le vrai créateur de monnaie, ce n'est pas la Banque centrale. Ce sont les banques. Ce sont les banques qui créent la monnaie. On l'apprenait autrefois dans les cours d'économie. On disait « loans make deposits ». Quand vous avez obtenu un prêt d'une banque, la première chose que vous faites, c'est que vous mettez ce prêt dans un compte de la banque. Et donc vous créez de la monnaie. Or, cette création monétaire par le crédit, elle a disparu. Elle représente à peu près 90% de la création monétaire sur longue période. Donc vous avez 90% de ce qui serait l'expansion monétaire désirée, sur laquelle on a mis un frein. Alors, inutile de se demander pourquoi on a maintenant une évolution de l'inflation qui va vers 0,5% alors qu'elle devrait être autour de 2%. Inutile de vous demander pourquoi les valeurs monétaires M3 sont languissantes. Tout ça, c'est parce que le canal du crédit est bloqué. Alors, et c'est là où j'en viens.
Comment pouvoir le remettre en fonction, quelque part ?
Comment le remettre en fonction ? Alors, il y a une manière qui serait de changer la réglementation bancaire pour rendre les banques moins dépendantes des ratios qui leur sont imposés. Je crois que ce n'est pas une bonne idée. Je pense que tout cet appareil réglementaire avait ses justifications dans la crise, le fait que les banques étaient probablement insuffisamment capitalisées. Donc, je pense qu'il ne faut pas toucher à ça. Mais il y a une idée très simple, qui a été longtemps d'ailleurs la manière dont les États-Unis se sont financés, et qui consiste à sortir du bilan des banques, qui sont à leurs yeux trop engagées sur l'économie réelle, à sortir des crédits, notamment des crédits aux petites et moyennes entreprises, à en faire des paquets qui sont l'objet d'une titrisation, qui deviennent des titres et qui peuvent être vendus à des acheteurs que sont des compagnies d'assurance, des fonds de pension, des fonds de gestion de fortune, etc.
Donc c'est ce qu'on appelle la titrisation.
C'est ce qu'on appelle la titrisation.
Alors qu'il n'y a pas forcément une bonne image à cause des différentes crises, hein, même si... Donc il faut la réhabiliter, de votre point de vue.
Il faut la réhabiliter. Elle a une mauvaise image, et à juste titre d'ailleurs, parce que dans les années 2005, 2006, 2007, on a abusé de la mauvaise titrisation en titrisant des crédits qui étaient de très mauvaise qualité et qu'on baptisait AAA dans un véritable scandale qui a été celui des subprimes aux États-Unis. Mais il n'est pas du tout question de rétablir ce genre d'errement. Il est question, tout au contraire, de réhabiliter, comme vous l'avez justement dit, de réhabiliter cette pratique qui est une pratique qui est vieille comme le monde et qui permet d'élargir au-delà des banques le financement de l'économie. Il s'agit de le réhabiliter en isolant les meilleurs de ces crédits des moins bons. Et pour ce qui est des meilleurs, il faut les noter, il faut les analyser. Il y a des banques centrales qui savent le faire. C'est par exemple le cas de la Banque de France, qui a une très ancienne tradition de notation de l'ensemble des entreprises en France et de leur qualité. Et ne retenir, dans un premier temps, que le groupe des meilleures entreprises. Alors, ce n'est pas négligeable. En France, par exemple, vous avez 60 000 entreprises, PME, qui sont de très bonne qualité, c'est-à-dire dont la performance de crédit, qu'on peut ramener, si vous voulez, à la probabilité de défaut, sont remarquablement élevées en qualité. Vous savez que la notion technique, c'est pas plus de 0,40% de risque de défaut sur une période de 3 ans. Vous avez à peu près 60 000 entreprises en France qui répondent à ces critères d'excellence. Et le sous-jacent, c'est-à-dire les crédits dont elles disposent et qui pourraient être titrisés, représente quelque chose comme une centaine de milliards d'euros. Donc ce n'est pas du tout négligeable. Et au plan européen, si on élargissait cette conception à l'ensemble pan-européen, on aurait des chiffres considérables.
Donc c'est qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, de votre point de vue, peut-être
bloque,
pour terminer ?
C'est très simple ce qui bloque, et c'est enfantin à débloquer. Ce qui bloque, c'est deux règles qui sont issues de l'histoire des subprimes. Parce qu'après le traumatisme des subprimes, la crise et tout, on a dit qu'il faut arrêter cette titrisation démentielle. Et alors, en effet, on l'a arrêté. Et les deux verrous qu'il faut faire sauter pour les titrisations de haute qualité, pas pour les autres, mais pour les titrisations de haute qualité, sont les suivants. Si une banque détient, par exemple, je ne sais pas, un titre Siemens, AAA, de bonne qualité, en direct sur ses livres, elle paye, en termes d'obligation de capital, une très faible contribution. Si ce même crédit, Siemens, est l'objet d'une titrisation, supposez que Siemens ait reçu des crédits bancaires et qu'on désire les titriser, vous avez le même sous-jacent, vous avez le même risque, vous avez la même entreprise, eh bien la banque qui détiendrait le produit titrisé serait obligée de payer 8 fois plus de capital que pour le titre sec. Alors, pour les PME qui ne peuvent pas aller directement, contrairement aux grandes entreprises comme Siemens, qui ne peuvent pas aller directement sur le marché obligataire, une PME ne peut pas le faire. Elle est dans la main de sa banque. Et si la banque ne veut pas prêter et qu'on essaye de faire une titrisation qui est ultra chère et pénalisée, personne ne va acheter le produit de cette titrisation. Et donc, vous n'aurez pas les compagnies d'assurance, vous n'aurez pas les banques qui détiennent une partie des titres qu'elles titrisent. Et donc, vous tuez le marché. Et il n'y a pas de miracle, le marché de la titrisation, il est mort depuis quelques années, dans des pays comme la France, et il ne peut revivre que si vous faites sauter ce verrou réglementaire qui n'a plus aucune espèce de logique. Car quand vous parlez aux régulateurs, vous leur dites « la base de tout ce que vous faites, c'est que vous appliquez des surcharges en capital » à risque égal. Et si vous avez deux risques égaux, pourquoi est-ce que vous appliquez dans un cas 8 fois plus de capital et 8 fois moins dans l'autre, si c'est la même qualité ? Alors, face à cette question, je dirais, élémentaire, mon cher Watson, le régulateur ne peut rien dire. Mais la réglementation conserve encore cette pénalisation. Alors, j'essaye, avec d'autres, bien sûr, je ne suis pas le seul, mais Eurofi, c'est un peu pris de jeu là-dessus. Et nous essayons de faire sauter ces deux verrous réglementaires qui ne mettent absolument pas en cause l'architecture de base. C'est l'immense édifice de Bâle reste intact. Il y a une petite brique qui a été placée malencontreusement à un endroit qu'on veut déplacer. C'est à peu près ça le problème. Et cette petite brique, j'essaye de la faire sauter. Mais ce qui est désolant, et je voulais le dire à votre radio en ligne, parce que c'est quand même télé en ligne, parce que c'est quand même quelque chose d'affolant, c'est que la simplicité de l'action à prendre, et qui passerait, je dirais, totalement inaperçu. Les chaumières ne vont pas s'inquiéter de cette mesure élémentaire et irrationnelle dont je parle. Et pour les réglementaires européens et les décideurs européens, parce que c'est dans les mains de la Commission européenne, cette affaire-là, quelque chose de très difficile, parce que ça fait partie de l'administration, de la bureaucratie, de la réglementation existante. Alors changer la moindre petite chose, c'est un problème. Alors que on devrait, comme les chefs d'entreprise le font tout le temps dans la vie, ils innovent, ils s'adaptent, ils trouvent des nouveaux clients, ils font des choses. Mais dans le monde administratif, on est régi par l'existant. Et donc, j'essaye de bouger ça, mais je suis un vieil homme et je me dis vraiment, c'est désolant de voir que vous avez des jeunes types, 30 ans, dans la commission, qui pourraient être heureux de faire repartir un peu l'économie. Parce qu'il s'agit de choses vraiment importantes. Si les PME, qui sont les grandes créatrices d'emplois, plus de 50%, 60% des emplois sont créés par les PME, et si elles sont dans un corset qui les empêche d'emprunter aux banques et qui les empêche aussi de titriser les crédits qu'on leur a fait, elles n'auront pas de croissance et elles vont continuer à péricliter. Alors c'est vraiment un cri d'alarme, c'est pas une petite mesure technique, c'est une mesure technique mais fondamentale. Voilà.
On a entendu, merci Jacques de la Rosière d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.